Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour les malades d'Ebola internés au centre hospitalier de Niakoundé. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, annonce leur prise en charge médicale et holistique, ainsi que dans d'autres structures, notamment dans les hôpitaux généraux de référence de Rwampara et de Bounia. Au Nord Kivu, un prêtre du diocèse de Goma et un couple de nouveaux mariés ont été kidnappés samedi dans le parc national de Virunga, juste avant d'arriver à Kiwanja. Monseigneur Willy Ngumbi, l'évêque de Goma, déplore cet incident et assure que tout est mis en œuvre avec l'aide des autorités de fait pour les retrouver au plus vite. La RDC a lancé ce vendredi à Kinshasa le logiciel Logimev pour la gestion numérique des informations relatives à ces produits de santé. Invité de Radio Okapi, le chef de projet au sein de l'organisation internationale Village Riche, Jefté Kalonji, explique l'importance de ce logiciel. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dominical de la mi-journée sur la radio de la paix. En Ituri, bonne nouvelle pour les malades d'Ebola internés au centre hospitalier de Niakoundé, à 48 km au sud de Bounia, dans le territoire d'Irumu. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, annonce leur prise en charge totale pour couper la chaîne de contamination dans cette zone de santé. Il l'a dit samedi à Bounia à la fin d'une mission de 72 heures au chef-lieu de la province épicentre de cette épidémie. Une mesure qui s'applique également aux malades internés dans les centres de traitement et d'isolement de Rwampara et de Bounia. De quoi redonner de l'espoir aux malades. Martial Kizabiamongo.
Le centre hospitalier de Niakoundé héberge plus d'une dizaine de malades suspects et confirmés d'Ebola. Comme dans les autres centres de traitement et d'isolement de la maladie, ces malades sans assistance médicale adéquate partagent le même mélatride avec d'autres patients. Par ailleurs, et selon des sources internes à cette structure sanitaire, certains malades manquent à manger et sont obligés d'aller chercher de la nourriture dans la communauté, ce qui constitue un grand risque pour la propagation du virus. Informé de cette situation, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a annoncé la prise en charge médicale et holistique de tous les malades en isolement au centre hospitalier de Niakoundé, ainsi que dans d'autres structures, notamment dans les hôpitaux généraux de référence de Rwampara et de Bounia. Il ajoute, je cite, « Nous vous rassurons que le gouvernement a tout mis en place pour stopper la propagation de ces virus qui a déjà causé des centaines de morts. Cela est possible avec un accompagnement des communautés locale. Fin de citation. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Restons dans la province. La riposte contre l'épidémie d'Ebola gagne en capacité en Ituri. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, assure que les tests, les équipements de protection et les médicaments en première nécessité sont disponibles en quantité suffisante. Autre bonne nouvelle, il annonce que les tests seront désormais réalisés sur place à Bounia, ce qui permet d'accélérer la prise en charge des malades et d'éviter l'accumulation des échantillons en attente d'analyse. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile.
Nous avons énormément de malades qui ont les symptômes des maladies les plus ordinaires. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons disponibiliser les tests de telle sorte que dans le maximum de centres de santé, qu'on puisse prélever et envoyer pour que nous puissions, en moins de 24 heures, séparer les personnes qui sont suspectes de la maladie des personnes qui ne sont pas du tout suspectes de maladie. Mais nous avons reçu aussi encore dizaines et dizaines de tonnes d'équipements, notamment tout ce qui est équipement de protection. Nous avons reçu aussi les médicaments de première nécessité et nous sommes déjà en train de distribuer tout cela.
Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels en testing. Et donc, nous pouvons dire que autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs. Donc nous avons honnêtement maintenant suffisamment de doses pour tester tous les nouveaux cas qui pourraient se présenter parce que nous n'avons plus un seul échantillon en retard depuis cette nuit.
Selon le ministre de la Santé, cette capacité de diagnostic sur place constitue une avancée majeure
dans la lutte contre l'épidémie en Ituri. Ituri toujours. La riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola se poursuit dans cette province avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux. Parmi eux, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'UNICEF et la MONUSCO qui jouent un rôle important dans l'acheminement du personnel, du matériel médical et des intrants nécessaires à la prise en charge des malades. Un appui salué par les gouvernements congolais. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Le ministre de la Santé en visite ce jeudi à Bunia a notamment souligné la qualité de la collaboration dans le partage des informations relatives à l'évolution de l'épidémie. Samuel Roger Kamba.
C'est une très bonne relation. En tout cas, nous, la RDC, nous sommes très transparents. Quand on me dit on vous met autant d'argent, je l'annonce toujours. Quand on me dit on vous apporte tel équipement, je l'annonce toujours. Nous devons recadrer le message. C'est nous qui donnons à tous les partenaires les chiffres. Ce que nous demandons, c'est qu'on dise aux gens la réalité de la situation, mais qu'on ne spécule pas.
De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri a salué l'appui logistique et opérationnel apporté par la MONUSCO dans un contexte où certaines zones touchées demeurent difficiles d'accès. Le général Johnny Luboyan Kachama.
La MONUSCO nous aide dans le transport et la sécurisation aussi. Donc nous travaillons avec eux, avec la police de la MONUSCO, et nous travaillons aussi avec le service de logistique parce qu'ils nous amènent et le personnel et le matériel. Ils peuvent transporter pour nous.
Pour les autorités congolaises, la lutte contre Ebola demeure un défi collectif qui exige à la fois l'engagement des communautés et le soutien constant des partenaires mobilisés aux côtés du gouvernement. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, un prêtre du diocèse de Goma et un couple de nouveaux mariés ont été kidnappés samedi dans le parc national de la Virunga, juste avant d'arriver à Kiwanja. Monseigneur Willy Ngumbi, l'évêque de Goma, déplore cet incident et assure que tout est mis en œuvre avec l'aide des autorités des fêtes pour les retrouver au plus vite. Les détails avec Rosalie Zawadi.
On en sait un peu plus sur les circonstances du kidnapping de ce samedi dans les parcs nationaux des Virunga. D'après leurs proches, les deux prêtres revenaient des Kanyabayunga où ils étaient partis célébrer le mariage du frère de l'un d'eux. Après le mariage, le nouveau couple devait rentrer vivre à Goma et tous ont pris place à bord du même véhicule que les prêtres. C'est sur la route menant vers Goma, alors qu'ils traversaient les parcs des Virunga, que des hommes armés ont surgi et intercepté leur véhicule. Les assaillants ont alors amené tout le monde dans les profondeurs du parc. Mais la marche dans les parcs a été pénible. L'un des prêtres, épuisé, n'arrivait plus à suivre le rythme. Les ravisseurs l'ont alors violemment tabassé avant de l'abandonner et de s'enfoncer loin dans la forêt avec les autres otages. Ce prêtre a réussi à rejoindre la route principale où il a enfin été secouru. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, condamne cet incident et demande que les prêtres restés aux mains de ces hommes armés ainsi que les autres personnes soient relâchées sains et saufs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres restent introuvables après une nouvelle attaque attribuée aux ADF survenue dans la nuit de samedi à dimanche en Gadi, un quartier périphérique de la commune de Rwenzori situé à environ 7 km du centre-ville de Beni. Ce quartier, pourtant proche d'au moins deux positions de FARDC, s'est réveillé dans la douleur et la consternation. Ce dimanche matin, les habitants poursuivaient encore les recherches de personnes introuvables. Les détails avec Martial Papimoukeba.
L'attaque d'Ngadi attribuée aux rebelles des ADF est survenue la nuit dernière aux environs de 21h30 heure locale. Selon des sources locales, les assaillants ont d'abord pris pour cible un campement des membres de la communauté pygmée. Au moins 6 civils ont été tués à l'arme blanche, indiquent ces sources qui précisent que les corps des victimes ont été retrouvés sur place. Les assaillants auraient ensuite poursuivi leur incursion dans d'autres secteurs du quartier Ngadi. Plusieurs personnes restent également introuvables, mais leur nombre exact des mères inconnues à ce stade, ajoutent les mêmes sources. Dans un communiqué publié ce dimanche matin, l'organisation Programme d'assistance aux Pygmées condamne cette attaque et confirme un bilan des 6 membres de la communauté tués, parmi lesquels figure un comédien bien connu dans la ville de Beni. Jusqu'à présent, ni les autorités locales, ni les FARDC ne se sont officiellement exprimés sur cette attaque. Il s'agit de la première attaque attribuée aux ADF visant visant la ville de Beni depuis plus de 3 ans. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les organisations de la société civile appellent à la suspension de l'examen de la loi référendaire par l'Assemblée nationale. Elles l'ont annoncé ce samedi à l'issue d'une journée de concertation. Selon elles, pour préserver la paix, la démocratie et la cohésion nationale, des initiatives telles que le référendum ou toute révision constitutionnelle doivent être abandonnées au profit des efforts pour la libération totale du territoire. Écoutons à ce sujet Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des organisations de la société civile, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou Kabongo.
La RDC traverse une période critique de son histoire. Les priorités nationales doivent être la restauration de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale, l'assistance aux populations affectées par la guerre et le renforcement de l'unité nationale. Le vote de la loi référendaire dans un contexte national extrêmement sensible redouble notre inquiétude. Les élus du peuple doivent se rappeler leurs responsabilités historiques dans la préservation de la paix, l'unité nationale et la démocratie. L'histoire retiendra les décisions prises dans ces moments critiques où la nation est menacée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toute tentative de changement de la Constitution n'est ni opportune ni prioritaire dans le contexte actuel des guerres d'occupation d'une partie du territoire national et des fragilités institutionnelles de notre pays. Le processus de vote de la loi référendaire par l'Assemblée nationale dans un contexte national extrêmement sensible mérite de être suspendu.
Par ailleurs, le ministre congolais des droits humains a plaidé pour la fin des violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Invité jeudi 28 mai devant le Sénat français pour un exposé sur les thèmes « Amplifier les voix », Samuel Mbemba a attribué ses exactions aux troupes rwandaises et à leurs alliés de l'FCM23. Il a regretté que les viols soient utilisés comme l'arme de guerre dans cette partie de la RDC. Un extrait du discours de Samuel Mbemba, proposé par Blaise Ndongala Mayanda.
Amplifier les voix de ces femmes contre les violences sexuelles et l'impunité. Tous les rapports des Nations Unies indiquent la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Notre plaidoyer, dans ce cadre, va consister à demander aux sénateurs français, au groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat, d'être ce groupe qui amplifie les cris de ces femmes meurtries, parler encore plus fort. Plus fort pour que tout le Parlement français entende. Plus fort pour que la France entière et l'Union européenne entendent ce que disent ces femmes meurtries.
Les agriculteurs du Kasaï central font face à de nombreuses difficultés, notamment les manques d'outils de production et l'insuffisance d'intrants agricoles. Cette situation, principalement liée à la faiblesse des moyens financiers, freine le développement de leurs activités et réduit leur productivité. Pour relever ce défi, le Programme national de développement agricole PENDA a lancé un mécanisme de subvention appelé Matching Grant. Cette initiative vise à soutenir les petits producteurs et leurs organisations afin d'améliorer la production et d'accroître les revenus des ménages. Le point avec André Katinde Ngalamouloumé.
Dans la commune de Nganza, Anakle Kapajika, président de l'organisation paysanne Kashipamalanda, déplore le manque d'outils et d'intrants agricoles. Selon lui, ces difficultés limitent considérablement la production de ses membres. De son côté, Ntumbaka Lulambi, cultivatrice également basée en Nganza, affirme disposer de vastes terres cultivables, mais manque des ressources financières et de main-d'œuvre pour les exploiter pleinement. Nous sommes déjà âgés. Si j'avais les moyens financiers, je pourrais faire appel aux jeunes pour m'aider. Nous avons des concessions. Nous sollicitons du gouvernement un appui en tracteur afin de faciliter les travaux agricoles. Face à ces défis, le Programme national de développement agricole a mis en place les subventions destinées aux petits producteurs, aux coopératives ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agricoles. Selon Jean Samaba, expert au sein du programme, une enveloppe de 6 millions de dollars est mobilisée pour soutenir l'augmentation de la production et des revenus des bénéficiaires. Les producteurs individuels peuvent obtenir jusqu'à 10 000 dollars avec une contribution personnelle de 10%, tandis que les coopératives peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 50 000 dollars avec un apport de 30%. Kananga, André Katendengala Mulumi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, traverser les grandes artères de la ville devient un véritable parcours du combattant pour de nombreux piétons. Sur les boulevards et plusieurs axes à forte circulation, le non-respect du code de la route par certains chauffeurs, motards et conducteurs de bus expose quotidiennement les habitants à de graves dangers. La population tire la sonnette d'alarme. Reportage de Magloire Landou Mayemba.
Sur les grandes artères de Kinshasa, le piéton éprouve d'énormes difficultés pour traverser la chaussée. En cause, le comportement de certains chauffeurs, motards et conducteurs de bus qui ne respectent ni les passages ni les priorités accordées aux passants. Plusieurs habitants rencontrés dénoncent une circulation désordonnée.
Traverser le boulevard est vraiment difficile parce que certains véhicules et motos surgissent brusquement dans notre sens pendant que vous regardez déjà de l'autre côté. Cela énerve et met sérieusement la vie des citoyens en danger. Les autorités doivent examiner cette situation de près.
Quand je traverse, les motards venant en sens inverse passent souvent sur une voie qui n'est pas la leur sans respecter la priorité. Je suis donc obligée d'attendre longtemps avant de traverser, ce qui est dangereux, surtout pour les personnes âgées.
Un motard interrogé reconnaît également les manques des disciplines observées sur les routes de la capitale.
Généralement, les motards sont pressés. Rouler quand il y a de l'embouteillage, ça pose vraiment problème. À des fois, c'est suite à cela qu'on préfère prendre l'essence contraire pour aller un peu plus vite.
Face à cette situation, la population demande l'implication des autorités afin de renforcer le contrôle routier et assurer un suivi strict pour protéger le piéton régulièrement exposé au danger.
Actualité internationale.
Après avoir déjà accueilli un groupe de 42 migrants africains expulsés des États-Unis l'an dernier, dans le cadre de l'accord migratoire qu'il a conclu avec Washington, le Ghana a récidivé cette semaine. Plusieurs personnes originaires d'Afrique de l'Ouest déclarées personnes non grata sur les territoires américains y ont atterri jeudi 28 mai. Leur nombre exact reste inconnu à ce stade.
L'invité.
La RDC a lancé ce vendredi à Kinshasa les logiciels Logimev pour la gestion numérique des informations relatives à ses produits de santé. Invité des Radio Capi, le chef de projet au sein de l'organisation internationale Village Riche, Jefté Kalongi, explique que ce système permet notamment d'éviter les ruptures des stocks ou les gaspillages liés à la péremption en facilitant la gestion des commandes grâce à l'autonomisation et à la centralisation de demandes d'approvisionnement des structures de santé vers les coordinateurs et distributeurs. Jefté Kalongi s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Jefté Kalongi.
Bonjour.
Le secrétaire général à la santé vient de lancer les logiciels Logimev. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette plateforme?
Logimev est un système de gestion d'informations logistiques des produits de santé et transactionnel. Transactionnel, ça signifie qu'il vous donne des informations en temps réel. Tous les mouvements des stocks qui sont faits dans les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé sont captés par les systèmes et présentés à travers les tableaux des bords et aussi des rapports de manière à ce qu'à tout moment on a une visibilité en temps réel des données logistiques pour que les décideurs qui gèrent la chaîne d'approvisionnement des produits de santé puissent prendre des décisions qui sont nécessaires pour garantir la disponibilité des produits de santé partout où on en a besoin dans le pays.
Quel est l'impact de cet outil digital?
L'impact est que ça va améliorer beaucoup de choses. J'ai parlé de la notion de la transactionnalité. C'est vrai que jusque-là, les pays utilisent déjà des systèmes numériques pour suivre la gestion des produits de santé, mais la notion de la transactionnalité n'existait pas encore. Lorsqu'on parle de la transactionnalité, c'est par exemple, moi, je gère un dépôt A et l'autre gère un dépôt B. J'enlève les stocks pour envoyer dans les dépôts B il faut qu'automatiquement les systèmes reflètent ce qui vient de se passer. Il ne faudra pas attendre à la fin du mois pour avoir les rapports. Et c'est cette notion de la transactionnalité que ces systèmes apportent. Et c'est ce qui fera qu'en temps réel, les décideurs au niveau des différents programmes du ministère de la Santé pourront voir qu'est-ce qui se passe au niveau des stocks des produits de santé en termes de la chaîne d'approvisionnement qui existe dans le pays.
Comment se fera la mise en œuvre de ces projets sur terrain?
L'initiative elle-même appartient au ministère de la Santé à travers son secrétariat général, appuyé par ses bailleurs traditionnels tels que Gavi. Nous avons eu à intervenir pour pouvoir déjà implémenter les systèmes. Le système est implémenté avec tout ce qu'il faut pour que ça soit utilisé partout. Mais seulement, pour utiliser ça partout, ça demande de faire des formations, ça demande de prendre en compte aussi certains aspects liés à la connectivité. Et tout ça, c'est tout un programme qui est géré au niveau du secrétariat général qui a le leadership sur ces projets, aussi avec les bailleurs qui financent ces projets. Et nous, en tant que chefs de projet, nous sommes là justement pour accompagner techniquement pour que cela puisse se faire tel que nous l'avons planifié.
Pourquoi avoir choisi seulement la province de Kinshasa et celle du Maniema au cours de cette phase pilote?
C'est à Kinshasa, nous avons pratiquement toutes les conditions réunies en termes de connectivité, en termes d'accessibilité. C'est plutôt une province facile à pouvoir expérimenter les systèmes. Au Maniema, on a des difficultés de connectivité et même certains coins aussi, l'accessibilité est un peu difficile. Donc, les points qui a amené à faire ce choix, c'est de pouvoir finalement avoir deux modèles. Une province où les choses sont plutôt faciles, une autre province où plutôt les choses sont un peu difficiles. Kinshasa, c'est l'ouest et Maniema, c'est l'est. C'est une façon aussi de voir montrer qu'on travaille pour les pays, on n'est pas seulement dans un coin.
Vous estimez à combien les coûts de ces projets?
Donc, en termes de coûts, c'est vraiment une affaire qui est liée au pays et aussi à UNICEF et même Gavi qui financent ces projets.
Quels sont les différents partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets?
Nous travaillons en tant que village riche. Nous avons été sélectionnés à travers un processus normal d'appel d'offres et nous travaillons en collaboration avec CHAI, qui est aussi une organisation internationale impliquée dans les renforcements des systèmes des chaînes d'approvisionnement à des produits de santé. Nous avons aussi une structure locale avec laquelle nous travaillons, une start-up qui s'appelle Daotech. Le but final est que nous puissions non seulement accompagner les pays à avoir ces systèmes dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, mais aussi veiller à ce que nous ayons une structure qui pourra aider dans l'appropriation nationale et aussi dans la pérennisation.
Monsieur Jefté Kalogi, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était donc notre invité Jefté Kalogi, chef de projet au sein de l'organisation internationale Village Rich, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Jean Gandou Kabongo et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.